Merci Franck et merci surtout à l'équipe de cette belle médiathèque Malraux de nous accueillir de façon aussi chaleureuse à Strasbourg en cette période de décembre, peu de temps avant Noël. C'est vraiment Noël quand on vient à Strasbourg, hein, là, surtout hier soir. Neil Gaiman, c'est aussi l'auteur de Coraline, que je vous recommande, bien évidemment, après le Salon Jeunesse, là, c'est le moment de parler de ces choses. Je vais donc, comme Emmanuel Aziza le rappelait, faire cette présentation d'enquête en solo. On avait prévu un tandem avec Annie Dourlan, un tandem assez complémentaire d'ailleurs, hein, puisque moi je jouais le rôle du méchant sociologue, méthodologue, et Annie le rôle de la gentille bibliothécaire, connaissant bien le terrain. Et je plaisante. Donc là, je vous propose plutôt une intervention en monocycle. J'espère que vous n'y perdez pas trop. Je vais essayer d'aller vite sur certains points pour garder peut-être un peu de temps pour le débat. Essayer aussi, dans la mesure du possible, d'actualiser les éléments de cette enquête qui a été réalisée fin 2012 avec d'autres enquêtes qui sont venues compléter et éclairer les données que cette enquête produite donc par la SOFRES pour le compte de Civic Agenda, qui elle-même était missionnée par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc cette enquête qui permet effectivement d'éclairer en partie les usages des ordinateurs connectés à Internet dans les bibliothèques publiques en Europe. Quelques mots très rapidement sur l'origine de cette enquête et le rôle que la BPI a pu jouer dans cette affaire. Donc vous connaissez, j'imagine, la fondation Bill et Melinda Gates, qui est particulièrement investie sur les questions en termes d'accès à l'information, d'accès à la culture, sans parler de tout ce que la fondation fait également en matière de santé, de développement et d'éducation. La fondation Gates s'était particulièrement investie dans 5 pays d'Europe, la Roumanie, la Lettonie, la Lituanie, et la Pologne, pour justement, dans le cadre d'un programme intitulé Global Libraries, essayer d'apporter son soutien et son concours pour développer la lecture publique dans ces espaces. Il était question à un moment de faire en sorte que cette initiative soit reprise au niveau local. S'agissant de pays inclus dans l'Union européenne, la question s'est posée de voir aussi comment elle pouvait être généralisée à l'ensemble de l'Union européenne. Et dans un premier temps, la Fondation Gates, en missionnant Civic Agenda, qui est une organisation non gouvernementale, une organisation qui gère ce type de projet et qui apporte du conseil pour l'IFLA également, il était question de faire le point, en gros, sur la lecture publique en Europe d'une manière générale, ce qui n'avait jamais été fait par certains côtés, vous allez le voir, en termes de collecte d'indicateurs. Et donc l'idée a été de produire des données et de réaliser une grande, très grande enquête à l'échelle européenne, puisqu'elle a concerné pas moins de 17 pays de l'Union européenne. Je vais détailler tout ça. L'objectif également de la Fondation Bill et Melinda Gates, c'était d'essayer d'inscrire cette réflexion sur les bibliothèques européennes dans l'agenda de l'Union européenne intitulé « Europe 2020 ». Et de faire en sorte qu'on puisse montrer que les bibliothèques de lecture publique dans tous les pays d'Europe peuvent apporter leur concours en matière justement de croissance intelligente, durable et inclusive. Et notamment pour tout ce qui concerne l'accès aux ressources numériques, l'accès à la formation aussi aux ressources numériques, hein, tout ce qui relève aussi des questions d'alphabétisation numérique. Ce qui est une manière donc de mettre les bibliothèques à l'agenda politique et de faire ce que les Anglais et les Américains appellent de l'advocacy, hein, en gros donc une forme de plaidoyer pour les bibliothèques et pour rappeler au personnel politique que ces institutions, en dehors de donner accès à la culture et à certaines œuvres et certains supports de loisirs, peuvent apporter aussi leur concours actif en matière de formation au numérique. Je vais prendre un petit peu de temps, là je reprends ma casquette de sociologue, pour vous présenter la méthodologie de l'enquête. D'une part, parce que ça me paraît très important, moi, en tant que sociologue, mais pour que vous compreniez bien aussi les indicateurs que je vais présenter assez rapidement. Comme je le disais, c'est une enquête assez ambitieuse, très ambitieuse. On a rarement les moyens d'accompagner ce type d'enquête de terrain. Je ne sais pas quelle somme globale elle a pu coûter, mais c'est très loin de nos possibilités, même parfois au niveau européen. L'enquête est constituée de trois blocs, de trois phases successives. Une première phase documentaire qui avait justement pour principe de collecter un certain nombre d'informations au niveau européen, ce qui n'avait jamais été fait pour certains indicateurs. Elle était suivie d'une phase quantitative double, une enquête de population générale et une enquête sur site, c'est-à-dire une enquête en bibliothèque. L'enquête de population donc, consistait en un questionnaire qui était diffusé dans 17 pays, qui a permis de collecter des réponses auprès de 17 816 personnes interrogées âgées de 15 ans et plus, donc un macro-échantillon, pour essayer justement de cadrer un certain nombre de données en matière de fréquentation des bibliothèques et d'utilisation d'ordinateurs mis à disposition du public et permettant d'accéder à Internet sur place. Ça, c'est important. Quand je parlerai d'utilisation d'ordinateurs, systématiquement, dans le cadre de cette enquête, il s'agit d'ordinateurs qui sont connectés à Internet et qui permettent de naviguer. Elle était suivie, cette enquête de population, par une enquête sur site, par questionnaire, toujours, qui était réalisée auprès d'usagers, encore une fois, âgés de 15 ans et plus. Au total, 24 253 personnes interrogées dans 17 pays, 1400 personnes environ par pays. Il s'agissait cette fois-ci de recueillir des données auprès de personnes ayant utilisé un ordinateur dans une bibliothèque de lecture publique au cours des 12 derniers mois et de s'intéresser aussi à des personnes qui avaient fréquenté des bibliothèques mais qui n'avaient pas nécessairement utilisé un ordinateur au cours de leur visite. Je précise une petite chose, puisque l'information risque de vous surprendre. Certaines questions n'ont pas été posées en France, et notamment des questions portant sur des données ethniques. Donc vous allez voir qu'on va parler de Roms, par exemple, de ce genre de choses. Les questions n'ont pas été posées en France. Vous savez, pour ce qui relève des statistiques ethniques, les enquêtes sont possibles, mais elles sont assujetties à tout un circuit de validation, à la fois politique et scientifique, et nous n'avions pas le temps d'entrer dans ce protocole, ce qui est bien dommage, puisque là, pour le coup, l'information manque en ce qui concerne la France. La double phase quantitative a été suivie par une phase qualitative, comme souvent dans ce type d'enquête. 18 pays, cette fois-ci, étaient concernés, Suède comprise, alors que la Suède n'est pas intégrée dans la phase quantitative initiale. Cette phase qualitative, c'était en fait des focus groups, des groupes de discussion qui étaient réunis avec des utilisateurs d'ordinateurs mis à disposition dans des bibliothèques. Et elle était également constituée par des entretiens approfondis qui étaient réalisés avec des bibliothécaires et des directeurs d'établissement. Voilà, il s'agissait de comprendre un peu mieux une partie des informations qui avaient été produites au cours de la phase quantitative. J'en donnerai quelques exemples. Les terrains concernés, donc 17 pays, disais-je, pour la phase quantitative double, très vite, la Bulgarie, la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni. En France, et c'était le rôle de la BPI, qui était l'interface entre Civic Agenda et le terrain, quand je dis le terrain, c'est l'ensemble des bibliothèques françaises, mais c'est également le service livre-lecture, puisqu'il a fallu faire appel à l'Observatoire de la lecture publique pour obtenir un certain nombre de données de cadrage. Donc 25 bibliothèques étaient concernées par la phase quantitative sur site, Castelnaudary, Carcassonne, Dijon, Lannion, Chartres, Fougères, Orléans, Angers, Lorient, Armentières, Colmar, Mulhouse, les régionaux de l'étape, Rieux-la-Pape, Lyon, Villeurbanne, Saint-Jean-de-Mont, Limoges, Épinal, Auxerre, Belfort, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Créteil, Ivry-sur-Seine, Vincennes. voyez une variété, une hétérogénéité de communes, mais également d'établissements qui était assez importante justement pour faire en sorte que les résultats soient représentatifs de la lecture publique, sans aller jusqu'à de très petites bibliothèques, puisqu'il fallait aussi maximiser le temps passé sur le terrain. Et pour finir, donc, la phase qualitative en France a concerné quatre établissements, la BPI, Melun, Limoges et l'Homme. Ceci posé, j'entre dans le vif du sujet et je commence par un certain nombre de données concernant justement des questions à la fois d'offres et d'usage, hein, d'offres et de demandes. Premier élément qui concerne le nombre moyen de bibliothèques pour 10 000 habitants. Vous voyez sur cette carte, donc de quand l'information est disponible, de grandes disparités, hein, comme vous pouvez fort bien l'imaginer, en ce qui concerne les différents pays d'Europe. Et la France qui se situe, j'allais dire, dans une zone moyenne, on va dire moyen moins, hein, c'est plutôt sous la moyenne. Concernant le nombre de bibliothèques publiques, alors pour la France, on s'est reposé quand l'enquête a été lancée sur les données qui étaient fournies par l'Observatoire de la lecture publique en 2011, que vous pourrez retrouver très facilement sur le site de l'OLP, avec les données 2012 qui sont disponibles et qui permettent d'actualiser déjà ces informations. Donc, le SLL proposait, le service livre lecture du ministère, donc de comptabiliser 7100 bibliothèques en France, hein, donc des bibliothèques de niveau 1, niveau 2 et niveau 3, soit 1,2 pour 10 000 habitants. Pour le total européen, on obtient 65 000 bibliothèques publiques en Europe, soit une moyenne d'1,3 établissements pour 10 000 habitants. Ce nombre de bibliothèques, évidemment, en France, est indicatif. C'est une donnée qui mérite d'être complétée par d'autres informations, notamment celles qui relèvent des points d'accès aux livres, hein, que les bibliothèques départementales de près connaissent bien. Les informations qui méritent aussi d'être précisées, c'est ce qui concerne aussi la question de la structuration des réseaux, de l'intercommunalité en particulier en France, hein, qui peut poser problème en termes de définition statistique et de comptabilité. Au total, en France, on arrive, hein, et c'est bien au-delà des 7100 bibliothèques proposées, à 16300 points d'accès aux livres en France, hein, en ce qui concerne la définition bibliothèque, tous établissements confondus. Et vous voyez donc de grandes disparités au niveau européen, hein, 0,5 établissements pour 10 000 habitants aux Pays-Bas, jusqu'à 4 établissements pour 10 000 habitants en République tchèque, en Bulgarie, en Lettonie ou en Lituanie. Il est intéressant de compléter cette carte de la répartition des bibliothèques au niveau européen, ou cette comptabilité des établissements, avec le niveau de dépenses consacrées annuellement aux bibliothèques, c'est-à-dire avec un investissement fort de la part des tutelles et des États. Et là, on voit que les disparités sont encore plus fortes et que le lien entre le nombre de bibliothèques, en tout cas le ratio, et l'investissement pour les bibliothèques n'est pas forcément très, très, très clair. Là, on voit qu'on a des disparités fortes en Europe et que la Finlande, par exemple, ou le Danemark sont beaucoup plus en pointe en matière de dépenses annuelles. En matière de fréquentation des bibliothèques, un petit point juste, Franck, puisque c'est toi qui va me policer. Ouais, voilà. Ouais. Tu m'arrêtes à quelle heure ?
45. Pour les questions ?
Pour les questions. On va sabrer un peu plus, alors. Très vite. Donc, en matière de fréquentation des bibliothèques, on obtient une moyenne européenne de 23% des personnes âgées de 15 ans et plus qui déclarent donc s'être rendues dans une bibliothèque au cours des 12 derniers mois, ce qui représente pas moins de 100 millions quasiment d'adultes au sein de l'Union européenne, et ce qui fait bien évidemment de la bibliothèque publique un établissement culturel particulièrement fréquenté. Et en France, voilà qui peut nous sortir parfois d'une certaine déprime des indicateurs un peu aride et difficile à digérer, on obtiendrait, hein, d'après cette enquête, 26% de personnes âgées de 15 ans et plus qui déclarent avoir fréquenté une bibliothèque publique, quel que soit le type de bibliothèque, au cours des 12 derniers mois, ce qui représente pas moins de 14 millions d'individus. On est loin, par exemple, du taux de 15% d'emprunteurs actifs dont parle l'Observatoire de la lecture publique dans les dernières statistiques produites en 2012. Vous voyez, c'est plus d'un quart de la population adulte française. Ça mérite quand même d'être signalé. Alors voilà la distribution statistique en ce qui concerne cet indicateur. En violet clair, les personnes qui déclarent, âgées de 15 ans et plus, qui déclarent avoir fréquenté une bibliothèque le mois dernier. En violet un peu plus foncé, des personnes qui déclarent avoir fréquenté une bibliothèque publique au cours des 12 derniers mois. Vous retrouvez une distribution que vous connaissez bien, les pays de l'Europe du Nord en tête, très en tête et décroché d'ailleurs du reste des pays européens, et à l'inverse, les pays de l'Europe du Sud plutôt en fin de distribution statistique. Et la France dans une position moyenne, légèrement supérieure à la moyenne européenne. Alors, j'insère, ce qui peut paraître peut-être difficile à suivre, une information complémentaire qui est venue 6 mois après l'enquête de Civic Agenda qui a été réalisée en octobre et novembre 2012, qui est venue compléter cette information. Et les données sont relativement comparables dans la mesure où on a posé la même question, on a utilisé le même plan de sondage, et c'est le même opérateur, la TNS Sofres, qui a réalisé l'enquête de terrain. Donc je compare sur cette diapositive, en violet clair cette fois-ci, les données produites par Civic Agenda pour la Fondation Gates en 2012, avec notre outil européen, Eurostat, donc l'Eurobaromètre culturel, qui a été réalisé 6 mois plus tard avec le même plan de sondage et qui posait la même question. Et grosso modo, parce qu'il faut lisser bien évidemment les écarts, on retrouve la même distribution, quasi la même distribution, sans que les rôles, sans que les places soient vraiment modifiées. Pour la France, on est même légèrement encore au-dessus dans l'Eurobaromètre, qui a eu lieu d'ailleurs un peu plus tard, comme vous le voyez. Et certains pays retrouvent peut-être un niveau de fréquentation plus conforme à ce qu'ils sont réellement. Je pense à l'Italie, par exemple, ou à l'Allemagne, dans la diapo qui précédait. Les Allemands étaient très étonnés de sortir à un niveau si bas de fréquentation. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Strasbourgeois, vous avez peut-être plus d'explications que moi. Je sèche un peu sur cette question. Dans l'enquête, on obtenait un taux de 4% de personnes au sein de la population globale qui déclaraient avoir, au cours des 12 derniers mois, utilisé des ordinateurs connectés à Internet dans une bibliothèque publique. 4%, vous allez dire, c'est peu, c'est très peu, et c'est vrai que c'est un pourcentage assez faible. Ça représente tout de même 14 millions d'individus au niveau européen. Ce que cette enquête nous invite aussi à faire, c'est à penser global et à passer parfois des pourcentages aux effectifs bruts. Et en termes d'effectifs bruts et en matière d'advocacy, précisément, je trouve que là, le rôle des bibliothèques européennes est assez manifeste. Mériterait d'être développé, mais déjà assez manifeste. Quelques précisions sur les utilisateurs d'ordinateurs en bibliothèque publique. Au niveau de l'Union européenne, c'est 80% des bibliothèques équipées. Pardon. En France, à l'époque, donc fin 2012, 75% des bibliothèques équipées. Au niveau de l'Union européenne, c'est 14% des usagers de bibliothèques qui déclaraient avoir utilisé des ordinateurs au cours de leur visite. En France, 5% seulement des usagers. 4% au total pour la population européenne, comme je l'ai dit, c'est-à-dire 14 millions d'adultes âgés de 15 ans et plus. En France, 2% seulement de la population, mais 800 000 personnes en effectif brut. Autre élément d'actualisation pour cette enquête, pardon ?
Question dans le micro, merci.
Peut-être que je vais trop vite et que vous allez aborder ça plus tard, mais est-ce que par pays ont été mis en comparaison les taux d'équipement et les offres de connexion Internet qui peuvent exister dans le privé pour expliquer parfois les écarts entre l'utilisation personnelle à la bibliothèque ou en dehors ?
En partie, oui. Tu me décompteras cette question de mon temps de parole.
C'est noté.
Merci. En partie, oui. Ce qui est très intéressant, et je n'ai pas repris les slides parce que je n'avais pas beaucoup de temps, c'est qu'il n'y a pas de corrélation très claire entre le taux d'équipement des ménages, notamment en possibilité d'accès à Internet, et l'utilisation des ordinateurs connectés sur place. Par exemple, on verra que la Finlande, par exemple, est l'un des pays où on a le plus fort taux de personnes qui utilisent Internet dans les bibliothèques publiques. Et c'est le pays le mieux doté au niveau européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation nette entre le fait de ne pas être équipé chez soi et de devoir le faire à la bibliothèque. Pour la majorité, on va voir que pour une minorité d'individus, c'est très important. Mais pour la majorité, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, il y a plutôt une forme de loi du cumul culturel et du cumul des équipements. Je suis équipé chez moi, en mobilité, à l'extérieur, dans les établissements. J'attends aussi ce type de service de la part de la bibliothèque. Je réponds partiellement à votre question, mais vous allez voir qu'on a d'autres éléments de cadrage. Donc un autre élément d'actualisation dans cette enquête, c'est l'enquête, la fameuse enquête annuelle du CREDOC sur la diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française, et qui montre qu'en 2013, en France, en matière de compétences pour utiliser un ordinateur, sentiment de compétences, près d'un Français sur deux âgé de 12 ans et plus déclare ne pas se sentir compétent. Ils sont équipés, pas nécessairement compétents. Et 20% se déclarent pas du tout compétents. On aura l'occasion d'y revenir, et Agnès Camus en parlera aussi. Découvrir Internet en bibliothèque, donc je reviens sur l'enquête Civic Agenda TNS Sofres, c'est donc 5 millions d'adultes en Europe environ qui déclarent avoir utilisé pour la première fois Internet dans le cadre d'une bibliothèque publique. Ça aussi, c'est une donnée assez intéressante. Et pour le coup, ce sont plutôt des femmes, des urbains, des personnes âgées, des personnes ayant arrêté leurs études au-delà de 20 ans. Qui utilise un ordinateur connecté à Internet en bibliothèque? C'est 4% seulement de la population, mais c'est 9% des 15-24 ans, donc un peu plus cette tranche d'âge. 1% seulement des 65 ans et plus, ce qui est anormal, étant donné le poids qu'il pèse sur la population, le poids qu'il représente, pardon, démographiquement. On effacera la bande. Merci, c'est numérique. 7% des personnes à la recherche d'un emploi, 7% des gens nés hors de l'Union européenne, 12% des élèves et des étudiants. Je vais accélérer un petit peu, puisqu'il me reste 3 minutes. 5, merci. Les groupes suivants sont les plus susceptibles d'indiquer qu'ils n'ont pas d'autres possibilités pour accéder à Internet. Donc 27% chez les Roms, 30% chez les personnes handicapées, 28% pour les plus de 65 ans, 14% pour les personnes au chômage, 33% pour ceux qui ont arrêté leurs études à l'âge de 15 ans. On voit que quand on affine les résultats, là, on commence à tomber sur des populations qui ont des besoins spécifiques dans ce domaine. Image et perception des bibliothèques publiques et de leur personnel. Là, on a des choses intéressantes. Je vais peut-être passer sur les données générales. De toute façon, vous aurez accès à mon PowerPoint. Je viens sur des comparaisons France et l'Union européenne d'une manière générale à travers cette enquête. On voit que pour la France, les services qui sont jugés importants, c'est-à-dire importants et extrêmement importants, c'est essentiellement les services, on va dire classiques, lire, emprunter des livres, des livres d'études pour les adultes et pour les enfants, lire des journaux et des magazines, emprunter des CD et des DVD aussi, beaucoup plus que la moyenne européenne. Et à l'inverse, ce qui relève des informations pratiques, informations pour les entreprises, accès à des informations sur les services publics, un espace où les gens du quartier peuvent se rencontrer, ou une information pour et sur le quartier, là, les écarts sont très forts avec la moyenne européenne. Gros décrochage pour ce qui concerne la France. Pourcentage de personnes qui sont tout à fait d'accord avec le fait que les bibliothèques publiques sont accessibles pour tous, fournissent un accès à l'information pour ceux qui n'y ont pas accès ailleurs, sont conviviales et accueillantes, offrent un environnement politiquement neutre, sont modernes, innovantes, disposent de personnel hautement qualifié. Bon,
ça fait mal. Là.
Ça fait mal. Sans commentaire. Bon, je rappelle que la barre est placée assez haut. Il s'agit du pourcentage de personnes qui sont tout à fait d'accord. Mais cela dit, on voit que le reste de nos collègues européens sont logés quand même à meilleure enseigne. Il y a quand même une différence assez forte. Très vite, donc quelques informations sur ce qui concerne justement... Je prends mon temps quand même. D'accord. En ce qui concerne donc les usages et notamment la question des apprentissages informels et la participation à un certain nombre d'activités, voire d'apprentissages formels cette fois-ci. D'après l'enquête, 24 millions d'adultes peuvent être considérés comme ayant participé à une activité éducative dans une bibliothèque au cours de l'année. 2,3 millions d'adultes au total ont participé à une séance d'initiation à l'informatique. Vous aurez le temps de consulter la diapositive. On voit que sur ces questions, à nouveau, la France est en décalage, en décrochage, notamment pour ce qui concerne le fait d'avoir reçu des conseils du personnel sur la façon de chercher un emploi, de participer à une séance de formation à l'utilisation d'ordinateurs ou d'avoir participé à un cours pour demandeurs d'emploi. Ceci dit, l'enquête a été réalisée fin 2012. On voit en 2013 et 2014 que les choses bougent assez vite en ce qui concerne les bibliothèques françaises. 23% des utilisateurs d'ordinateurs en France déclarent avoir recherché des informations en ce qui concerne l'accès à l'emploi et l'activité professionnelle d'une manière générale. C'est 30% en Europe, 19% au Danemark, 49% en Lituanie. 1,5 million d'adultes ont déposé une candidature en ligne pour obtenir un emploi dans une bibliothèque publique. 250 000, d'après les résultats de cette enquête, auraient trouvé un emploi. Vous allez me dire, au niveau européen, 250 000, c'est évidemment peanuts, s'agissant de 500 millions d'Européens âgés de 15 ans et plus. Ça fait quand même... 250 000, c'est la ville de Rennes. C'est pas négligeable non plus.
Ça, c'est intéressant.
Alors, le rôle du personnel dans les activités d'apprentissage informel en ce qui concerne les outils numériques et notamment la façon d'accéder à Internet et de naviguer sur Internet. A bénéficié de l'aide d'une démonstration de la part d'un membre du personnel de la bibliothèque pour réaliser une activité au cours des 12 derniers mois. On compare la France en rouge avec le reste de l'Europe en moyenne en gris. On voit que trouver des informations sur le site internet de la bibliothèque, ça concerne plus la France que le reste de l'Europe. Utiliser un navigateur ou un moteur de recherche pour trouver des informations en ligne, encore une fois, ça concerne plus la France que le reste de l'Europe. Et à l'inverse, utiliser des équipements informatiques d'une manière générale, imprimer ou scanner un document, donc pour des choses beaucoup plus pratiques, techniques, moins bibliothéconomiques, peut-être, moins cœur de métier, on va dire, se connecter au réseau Internet sans fil de la bibliothèque. Fin 2012, ça concerne beaucoup moins la France que le reste de l'Europe d'une manière générale. À nouveau, le rôle du personnel dans les activités liées à l'emploi, est toujours en matière de quête d'informations sur Internet dans les bibliothèques publiques, on voit que la France est nettement décrochée aussi sur ses usages. Simplement, par exemple, sur la question de la rédaction du CV. Quel public pour ces activités ? Donc, ces activités qui viennent d'être listées, elles concernent plutôt des usagers issus de la communauté rom, à nouveau, ou des minorités ethniques, des usagers en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine, des usagers de plus de 65 ans, en particulier en ce qui concerne l'apprentissage informel. Et là, l'écart entre le taux d'usage des plus de 65 ans des ordinateurs connectés dans les bibliothèques publiques et en fait le besoin sans doute qu'ils ont de ces outils et de la formation qui pourrait les amener à mieux maîtriser ces outils est très grand, très élevé. Je pense qu'il y a des lignes de travail importants dans ce domaine. Pour terminer, bénéfices perçus de l'usage des ordinateurs en bibliothèque publique, quelques éléments, mais Agnès aura l'occasion de compléter avec des choses plus qualitatives sur les ateliers. 83% des utilisateurs d'ordinateurs estiment que l'utilisation de ces ordinateurs leur a été utile en bibliothèque. 61% en termes d'éducation, notamment, d'accès aux services de l'administration publique et aux ressources et compétences nécessaires pour trouver un emploi. Les répondants issus de la communauté rom, partout où ils ont été sondés, sauf en France, sont plus enclins que les autres à trouver les ordinateurs utiles. Dans l'enquête qualitative, les groupes de discussion montrent que les ordinateurs mis à disposition du public sont très importants pour ce qui concerne l'amélioration de l'estime de soi et son assurance. C'est-à-dire que, bien évidemment, ces usages et ces accès vont au-delà des questions simplement pratiques et techniques, et qu'ils ont des résonances beaucoup plus fortes, sociales et psychosociales. Et que cette mise à disposition des ordinateurs permet de combattre une forme d'isolement social. Agnès aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et je conclue, mais je répondrai volontiers à vos questions, parce que bien évidemment, j'ai laissé de côté un certain nombre d'éléments qu'on peut tirer de cette enquête. Les intérêts de l'enquête, donc je le répète, et c'est pas si courant, et je pense qu'on pense pas suffisamment de cette façon-là. À Strasbourg, cela dit, puisque vous êtes limitrophe, vous avez peut-être plus cette habitude de vous intéresser à ce qui se passe derrière la frontière, à ce qui se passe chez les collègues qui sont tout à côté et qui ont d'autres pratiques et d'autres environnements institutionnels. Cette enquête nous incite tout de même à voir à l'échelle européenne, et elle nous incite aussi à nous comparer positivement aux autres, pas pour désigner des premiers de la classe et des derniers de la classe, mais pour essayer de comprendre aussi pourquoi il y a autant de différences et comment on pourrait faire pour penser au niveau européen en s'efforçant justement d'aider au mieux ceux qui n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes possibilités. L'enquête permet également, ce qui n'est pas si courant en France, d'évaluer la place des bibliothèques en temps de crise. Alors, en temps de crise, crise économique, bien sûr, mais pas que. Crise de repères aussi, crise de valeurs, et notamment sur des aspects très pratiques et bien évidemment sur la question de l'alphabétisation numérique. L'enquête permet de s'intéresser à des indicateurs que nous n'utilisons pas ou très peu. Je pense qu'il faudra se reposer assez vite chez nous la question des statistiques ethniques ou des enquêtes qualitatives ciblées sur ces populations. L'enquête permet de disposer des éléments quantitatifs et qualitatifs pour faire valoir l'intérêt des services rendus par les bibliothèques auprès des tutelles. On n'a pas toujours aussi cette connaissance des bibliothèques de la part des tutelles, cette attention portée aux bibliothèques qui parfois sont pensées comme étant strictement réservées à un secteur qui est le secteur culturel, au mieux de l'éducation, voire dans certains cas du loisir, mais pas le secteur de l'éducation pratique, de l'éducation informatique, et ainsi de suite. Donc l'enquête permet bien évidemment de questionner à nouveau les missions des bibliothèques, et en particulier des bibliothèques françaises, et la place qu'elles occupent dans la cité. Pour les suites, et nous nous sommes engagés vis-à-vis de la fondation Gates, puisque nous profitons actuellement des résultats de cette enquête sans avoir investi le moindre euro. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie, il y a eu tout un travail de collaboration, donc il y a quand même eu un investissement, mais il est quand même question de profiter de ces indicateurs et de les affiner. Je crois qu'il faudra continuer à travailler à l'échelle locale et à l'échelle européenne pour bien interpréter les données. J'ai parlé de l'Allemagne, mais je pense qu'il y a d'autres points aveugles qui méritent d'être retravaillés. Il faudra bien évidemment d'autres enquêtes pour préciser un certain nombre de choses. L'enquête ne porte que sur les personnes âgées de 15 ans et plus. Et donc là, on a à nouveau un angle mort, c'est-à-dire les moins de 15 ans. Que se passe-t-il dans ce domaine? Là aussi, les choses commencent à bouger, on manque d'informations. Et bien évidemment, moi, je pense que les informations qui ont été produites dans le cadre de cette enquête nous incitent également, je pense, à travailler un peu mieux sur la question des seniors et des besoins et des attentes particulières en ce qui concerne ces populations. Vous pourrez télécharger le rapport complet de l'enquête sur le site pro de la BPI, sur le nouveau site pro de la BPI. Je vous laisserai le lien via mon PowerPoint, mais vous pouvez d'ores et déjà consulter la page du site pro de la BPI. Vous verrez que l'enquête apparaît sur la page d'accueil très vite. Voilà. Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
Donc, il y a deux micros dans la salle. Donc, vos questions. Est-ce que que je trouve intéressant, moi, dans cette enquête, c'est que, en fait, on voit que dans les autres pays européens, la philosophie peut-être des bibliothèques vont vers un développement beaucoup plus de services de type recherche d'emploi, etc. Et c'est ce qui m'avait frappé, moi, quand j'avais lu cette enquête. Et en France, on en parlait hier avec Françoise, c'est pas finalement si développé que ça, les ateliers emploi dans les bibliothèques. Et en fait, ça nous laisse des marges quand même. Cette enquête, elle nous montre qu'il y a des choses à faire justement pour toucher tous ces différents publics qui sont encore exclus en fait, de l'accès. On voit que la bibliothèque est souvent le premier lieu d'accès à l'information.
Tout à fait, oui. Là, dans les comparatifs qu'on pouvait faire au niveau européen en matière d'équipement, en matière d'actualisation de l'équipement aussi, il y avait des différences entre les pays européens qui étaient considérables, et en matière de médiation autour de ces supports, en matière de formation, d'atelier, là, pour le coup, effectivement, même si, moi, je le dis, hein, depuis fin 2012, je trouve, en allant beaucoup sur le terrain, que l'offre a quand même considérablement évolué en France, mais qu'il y a encore des marges de manœuvre énormes.
On a une première question. Oui.
D'accord, je crois que la première était à gauche. Oui, bonjour. Donc, en fait, une question sous forme de précision. Donc, j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'une des données, notamment autour de la consultation, semble-t-il, des postes Internet, mais aussi des recherches pratiques, on va dire de vie pratique en bibliothèque, et qui était vue comme une sorte de construction d'estime de soi des usagers. Alors, je trouve que la notion d'estime de soi est tout à fait intéressante par rapport aux services aussi que l'on rend. Par contre, je n'ai pas bien saisi le glissement malgré tout. Qu'est-ce qui permet, par exemple, d'obtenir cette donnée à travers l'enquête? L'objectif, en quelque sorte, quoi.
Juste un principe organisationnel. Est-ce que tu peux te présenter?
Je me présente également. Donc, Arsenote, directeur de la médiathèque André Malraux.
En fait, et Agnès en parlera encore plus longuement, c'est la phase qualitative qui a permis d'obtenir ce type d'informations, c'est-à-dire des groupes de discussion qui ont été réalisés avec des usagers par la TNS Sofres dans des bibliothèques. Et ces groupes de discussion étaient à la fois formalisés autour d'un certain nombre de thématiques, mais très informels aussi, c'est-à-dire qu'on invitait les gens à s'exprimer longuement et très librement sur l'intérêt qu'ils trouvaient à manipuler ces outils et à avoir accès facilement à Internet dans les bibliothèques. Et très vite, au-delà des motifs très, très utilitaristes, pragmatiques, techniques, quand on les poussait un peu, ils disaient « oui, voilà ». Puis moi, j'étais un peu largué par rapport à mes petits-enfants ou par rapport à des personnes autour de moi qui sont beaucoup plus à l'aise. Et puis... je ne peux pas leur demander parce que sinon je passe pour un idiot ou pour une idiote. Et à la médiathèque, j'ai pu obtenir des formations incognito, anonymes, bienveillantes. Et du coup, je sais comment faire pour skyper maintenant et je me sens beaucoup mieux, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que ça voulait dire « je me sens beaucoup mieux » C'est là, effectivement, qu'on tirait sur le fil et que la plotte venait sur des choses beaucoup plus personnelles.
Une autre question, Rodrigue.
Oui,
tu te présentes?
Oui. Donc, Rodrigue Alani, responsable du Centre de culture numérique et de l'Observatoire des usages numériques de l'Université de Strasbourg. Et du coup, vous allez vite comprendre ma question. Je sais bien qu'on est dans une réunion très professionnelle, mais que pensez-vous du travail en réseau avec d'autres organismes publics, justement, où l'on trouve aussi des professionnels de la formation et de l'éducation? Pour ce travail qui peut avoir plusieurs étapes, hein, parce qu'il y a la formation technique, certes, mais la formation aux usages, la formation à la culture justement numérique un peu plus large, mais la première étape est très importante. Vous vous doutez de mon avis, mais quelle est votre position sur cette, ou votre idée sur cette...
Alors, en tant que sociologue ou en tant que représentant de la BPI, ou les deux? Moi, je trouve ça parfait. Je trouve ça très intéressant. Dans l'enquête, justement, on voit bien aussi qu'il y avait des différences, notamment entre la France et d'autres pays d'Europe, où justement cet aspect collaboratif, travail en réseau, avec un décloisonnement institutionnel, était beaucoup plus fort que ce qu'on peut trouver en France, où manifestement, là, pour le coup, les choses étaient parfois un peu plus sectorisées, cloisonnées, et moins partagées, moins...
Oui, c'est justement ça. Enfin, ma question, elle est dans exactement dans ce sens-là. Effectivement, il y a peut-être un certain nombre de chiffres qui sont expliqués par un décloisonnement qui existe ailleurs, en particulier chez nos Outre-Rhin, et qui en France existe au moins, où il y a un cloisonnement, je parle simplement de notre région, et puis Franck le sait aussi bien que moi, entre les différents organismes. On organise, bon, on a la chance de se connaître et du coup de partager nos formations, mais ailleurs, bon, c'est pas toujours très évident, et là il y a un travail par contre énorme à faire, et qui serait certainement très riche pour nos citoyens. Ouais.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui permettrait sans doute aussi, peut-être en France, de contribuer à changer aussi l'image de la bibliothèque et de la médiathèque, hein, qui est parfois justement aussi perçue comme étant, comment dire, quelque chose d'un peu en dehors de certains circuits, en dehors du jeu, qui représente un secteur bien à elle, un peu cloisonné, un peu particulier, un monde à part. Et donc il y a vraiment toutes ces questions. Mais c'est bien évidemment un élément d'interprétation très fort.
Alors, il y en a deux.
Bonjour, Fleur Bouyane des bibliothèques de Toulouse. J'avais à peu près la même question que celle de Rodrigue, donc je me permets peut-être d'aller un petit peu plus loin ou de vous demander une réponse un peu plus précise. Je trouve donc l'interprétation de ces statistiques, effectivement, ça me semble évident, doit être regardée par rapport à ce qu'on a dans un pays en termes de services proposés sur le territoire. Donc on a évoqué tout à l'heure le fait de... Alors je ne sais plus, c'était le Wi-Fi peut-être. Enfin, le fait d'avoir du Wi-Fi dans une bibliothèque par rapport à l'usage des ordinateurs dans la bibliothèque, il y a quelque chose qui doit changer. Si on propose du Wi-Fi, peut-être qu'on utilise moins les postes publics. Bref, pour compléter aussi, sur un territoire en France, on peut attendre que la formation au CV, à la recherche d'emploi, soit portée peut-être par le Pôle emploi ou une maison de l'emploi. Est-ce que la bibliothèque doit se rajouter? Est-ce qu'elle en a la compétence? Ou est-ce qu'elle s'appuie sur des compétences qui sont annexes, voilà, plus précisément.
Oui, question délicate. Moi, je ne peux pas répondre de manière tranchée. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt les professionnels qui doivent s'emparer de ces problématiques. J'aurais tendance à rappeler une petite chose, c'est que quand je suis demandeur d'emploi et que je m'adresse à Pôle emploi, il y a tout un travail d'étiquetage et de présentation de soi, hein, tout un effet institutionnel qui est très fort. Et quand ces choses-là se font à la bibliothèque et parfois en dehors du personnel de Pôle emploi, eh ben, les choses ne sont pas du tout vécues de la même façon. Donc il n'y a pas nécessairement... il n'y a pas nécessairement concurrence, l'articulation est parfois plus délicate, hein. Les choix qu'on va poser en tout cas peuvent avoir des incidences sur la facilité d'accès ou au contraire la difficulté parfois pour certains d'entrer dans des rails et des cheminements, donc c'est assez complexe, hein. En tout cas les questions méritent d'être posées.
Agnès va nous apporter des éléments après.
Tout à fait.
Sur ces aspects. On va peut-être prendre une dernière question pour être dans les temps, si vous voulez bien.
Laurence Kamkam, responsable d'un centre de formation pour Bibliothèque sur Lyon. J'avais une question par rapport aux catégories de public. Vous nous avez parlé d'un certain public de certaines ethnies, d'une certaine forte ruralité et des plus de 65 ans. Et je voudrais savoir, puisqu'on sait que c'est un facteur discriminant dans les bibliothèques, le niveau de diplôme, le niveau économique, est-ce que ça a été observé ou pas, et est-ce que du coup ce ne serait pas déterminant puisque vous n'en avez pas du tout parlé?
Alors ça a été observé et c'est important. En revanche, dans le questionnaire, il y a pour des besoins techniques et pour aller vite, les questionnaires ont été allégés et les données en ce qui concerne notamment le niveau de diplôme et le niveau de revenu ont été particulièrement simplifiées, donc elles ne sont pas très faciles à utiliser, mais ça reste effectivement des facteurs là encore discriminants pour faciliter ou au contraire contrarier, je vais dire, l'usage des ordinateurs dans les bibliothèques et la fréquentation même des bibliothèques.
Excusez-moi, du coup je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un biais? parce que donc ça n'apparaît pas parce que ça n'a pas pu être véritablement décrypté, si j'ai bien compris. En revanche, l'ethnie apparaît. Alors, parce que c'est peut-être beaucoup plus facile à décrypter. Donc, moi, ça me pose question.
Ah oui, ça, ce sont des choix qui ont été faits par la TNS. Voilà.
On va prendre une dernière question. Allez. Je gagnerai du temps après. Françoise, promis.
Toute dernière. Urjassia, bibliothèque de Fécamp, c'est par rapport au terme d'alphabétisation numérique. Je voulais savoir s'il y a eu des recoupements avec des organismes, des centres sociaux, des organismes chargés d'alphabétisation, parce que c'est quand même délicat. Ce n'est pas une mission traditionnelle, quand même, qui, dans la pratique hein, en bibliothèque. Donc, voilà.
Des recoupements, c'est-à-dire ?
Des données, des outils mis à disposition, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire alphabétisation numérique en bibliothèque. Enfin, moi, ça me pose problème.
Bah, c'est tout simplement premier pas.
Parce que le terme d'alphabétisation n'est pas...
Ah, c'est l'expression qui était utilisée. Voilà. En fait, il faudrait être beaucoup plus clair. On devrait parler de littératie numérique. Mais on l'utilise pas, ce terme. Eh oui, oui. L'alphabétisation, c'est quand on apprend un code de zéro. La littératie, c'est quand on maîtrise déjà, qu'on est déjà alphabétisé et qu'on... Voilà. C'est pas la même chose. Sauf que là, il y a aussi des gens qui partent de zéro quoi, dans ces apprentissages numériques. Oui, oui. Non, mais je retiens. Tout à fait. Agnès va en parler de toute façon. Ouais.
Oui, bah, ça va permettre de faire la transition justement sur. Tu as parlé des sentiments de compétence ou d'incompétence. Et je crois que maintenant, bah, Agnès, je t'invite à nous rejoindre sur la salle. Merci Christophe. De toute façon, tu restes avec nous et puis on pourra toujours t'interroger et tu pourras apporter tes éléments.